mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte du Japon écrit par Claude Clément et édité par les éditions Milan Jeunesse en 2009, intitulé « Enfer ou paradis ». Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons la prise de parole de Steve Jobs devant les étudiants de l'Université américaine de Stanford en 2005. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous expliquera comment faire sa graine. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons des droits d'alerte et de retrait selon le code du travail. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
Conte du Japon. Histoire de Claude Clément. Enfer ou paradis? Ce terrible et puissant samouraï a participé à bien des batailles. Il a triomphé de 1000 dangers. Son courage n'est plus à prouver. Bref, il s'est construit une brillante renommée dans tout le pays. Il se demande maintenant comment, au jour de sa mort, il pourra distinguer les portes de l'enfer de celles du paradis. Cette question le taraude tellement qu'elle lui ôte le sommeil et que l'homme devient de plus en plus irritable et nerveux. Un ami essaie de le calmer. « Va voir le maître zen, tu sais, le sage solitaire qui habite dans une hutte de roseaux sur l'île au milieu du lac. Il saura peut-être te répondre. » Le samouraï se rend donc au bord du lac. Il appelle le solitaire. « Maître Zen, montre-toi et réponds à la question qui m'ôte le sommeil. » Mais le sage ne se montre pas. L'homme s'agite, il trépigne et il crie de plus en plus fort. « Maître Zen, Maître Zen, tu es là !» Le sage n'apparaît toujours pas. Plusieurs jours s'écoulent et le samouraï s'énerve toujours sur la berge. Quand il voit enfin passer une barque sur les eaux du lac, il crie de nouveau. « Ohé, pêcheur, je t'ordonne de me prendre dans ton bateau et de me déposer sur l'île au milieu du lac !» Le pêcheur est impressionné par l'allure redoutable de ce guerrier et il s'empresse d'exécuter son commandement. Arrivé sur l'île, le samouraï appelle encore le maître zen. « Maître zen, montre-toi et réponds à la question qui m'ôte le sommeil !» Le sage ne répond pas. Le guerrier pénètre dans la cabane d'un pas résolu. Il trouve le vieil homme assis, immobile et silencieux. Il ne prend pas la peine de le saluer ni de se présenter. « Tu ne m'entendais donc pas ?» Les lèvres du maître ne frémissent pas plus que celles d'une statue. « Tu es sourd ?» Alors le maître bouge simplement la main et l'invite à s'asseoir près de lui. Le samouraï n'y va pas par quatre chemins. « Comment distinguer les portes du paradis de celles de l'enfer ?» Le maître demeure parfaitement calme. « Qui es-tu ? » « Comment ? Tu ne me reconnais pas ? Pourtant, on vante en ce moment ma vaillance dans tout le pays. »« Toi, cela m'étonnerait. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu as plutôt l'apparence d'un vagabond que celle d'un glorieux homme de guerre. » Fou de rage, le samouraï dégaine son sabre, mais le sage ne se laisse pas intimider. « Comment ? Un misérable comme toi possède une arme de seigneur ? Je parie que tu l'as volée et que tu es trop maladroit pour savoir t'en servir convenablement. » Aveuglé par la colère, le samouraï brandit son sabre, il s'apprête à fendre la tête du vieil homme. Mais celui-ci demeure imperturbable. « Ici s'ouvrent pour toi les portes de l'enfer. » Le samouraï suspend son geste. Puis il baisse le bras avec lenteur et il rengaine son arme. La voix du maître n'est plus que douceur. « Ici s'ouvrent pour toi les portes du paradis. » Alors l'homme de guerre s'incline devant le sage avec respect et il sort de la cabane sans rien ajouter. Cette fois, le samouraï attend sans impatience le retour du pêcheur. Pendant des heures, il ne voit rien venir. Lorsqu'il aperçoit enfin le rameur, il lui demande poliment de l'accepter à bord de sa barque, et quand le pauvre homme le dépose de nouveau sur la berge, le puissant héros de guerre le remercie pour son service avec amabilité, et il rentre chez lui, apaisé.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où ?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers ? Des résistants, avec un grand R.
Oh ! Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Oh ! Wow.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
C'est un honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui et d'assister à une remise de diplôme dans une des universités les plus prestigieuses du monde. Je n'ai jamais terminé mes études supérieures. À dire vrai, je n'ai même jamais été témoin d'une remise de diplôme dans une université. Je veux vous faire partager aujourd'hui trois expériences qui ont marqué ma carrière, c'est tout. Rien d'extraordinaire, juste trois expériences. La première concerne les incidences imprévues. J'ai abandonné mes études au Reed College au bout de 6 mois, mais j'y suis restée auditeur libre pendant 18 mois avant de laisser tomber définitivement. Pourquoi n'ai-je pas poursuivi ? Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle avait choisi de me confier à des parents adoptifs. Elle tenait à me voir entrer dans une famille de diplômés universitaires. Et tout avait été prévu pour que je sois adoptée dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que, lorsque je fis mon apparition, ils décidèrent au dernier moment qu'ils préféraient avoir une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit. « Nous avons un petit garçon qui n'était pas prévu, le voulez-vous ?» Ils répondirent « Bien sûr ». Ma mère biologique découvrit alors que ma mère adoptive n'avait jamais eu le moindre diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais terminé ses études secondaires. Elle refusa de signer les documents définitifs d'adoption et ne s'y résolut que quelques mois plus tard, quand mes parents lui promirent que j'irais à l'université. 17 ans plus tard, j'entrai donc à l'université, mais j'avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford, et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais toujours pas la justification. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie et je n'imaginais pas comment l'université pouvait m'aider à trouver ma voie. J'étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné leur vie durant. Je décidai donc de laisser tomber. Une décision plutôt risquée, mais rétrospectivement, c'est un des meilleurs choix que j'ai jamais fait. Dès le moment où je renonçais, j'abandonnais les matières obligatoires qui m'ennuyaient pour suivre les cours qui m'intéressaient. Tout n'était pas rose. Je n'avais pas de chambre dans un foyer, je dormais à même le sol chez des amis, je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer le dépôt de 5 cents et acheter de quoi manger. Et tous les dimanches, je faisais 10 km à pied pour traverser la ville et m'offrir un bon repas au temple de Hare Krishna, un régal. Et ce que je découvris alors, guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable à l'avenir. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Reed College dispensait alors probablement le meilleur enseignement de la typographie de tout le pays. Dans le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était parfaitement calligraphiée. Parce que je n'avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidai de m'inscrire en classe de calligraphie. C'est ainsi que j'appris tout ce qui concernait l'empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d'une typographie. C'est un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J'étais fascinée. Rien de tout cela n'était censé avoir le moindre effet pratique dans ma vie. Pourtant, 10 ans plus tard, alors que nous concevions le premier Macintosh, cet acquis me revint. Et nous l'incorporâmes dans le Mac. Ce fut le premier ordinateur doté d'une typographie élégante. Si je n'avais pas suivi ces cours à l'université, le Mac ne posséderait pas une telle variété de polices de caractères, ni ses espacements proportionnels. Et comme Windows s'est borné à copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'en disposerait. Si je n'avais pas laissé tomber mes études à l'université, je n'aurais jamais appris la calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas cette richesse de caractères. Naturellement, il était impossible de prévoir ces répercussions quand j'étais à l'université, mais elles me sont apparues évidentes 10 ans plus tard. On ne peut prévoir l'incidence qu'auront certains événements dans le futur. C'est après coup seulement qu'apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu'ils joueront un rôle dans votre avenir. L'essentiel est de croire en quelque chose, votre destin, votre envie, votre karma, peu importe. Cette attitude a toujours marché pour moi et elle a régi ma vie. Ma deuxième histoire concerne la passion et l'échec. J'ai eu la chance d'aimer très tôt ce que je faisais. J'avais 20 ans lorsque Woz et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et 10 ans plus tard, Apple était une société de plus de 4000 employés dont le chiffre d'affaires atteignait 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer un an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh, et je venais d'avoir 30 ans. C'est alors que je fus virée. Comment peut-on vous virer d'une société que vous avez créée? C'est bien simple. Apple ayant pris de l'importance, nous avons engagé quelqu'un qui me semblait avoir les compétences nécessaires pour diriger l'entreprise à mes côtés. Et pendant la première année, tout se passa bien. Puis nos visions ont divergé, nous nous sommes brouillés, le conseil d'administration s'est rangé de son côté. C'est ainsi qu'à 30 ans, je me suis retrouvée sur le pavé, virée, avec pertes et fracas. La raison d'être de ma vie n'existait plus, j'étais en miettes. Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire, j'avais l'impression d'avoir trahi la génération qui m'avait précédée, d'avoir laissé tomber le témoin au moment où on me le passait. C'était un échec public, je songeais même à fuir la Silicon Valley. Puis j'ai peu à peu compris une chose, j'aimais toujours ce que je faisais. Ce qui m'était arrivé chez Apple n'y changerait rien. J'avais été éconduit, mais j'étais toujours amoureux. J'ai alors décidé de repartir à zéro. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé d'Apple fut salutaire. Le poids du succès fit place à la légèreté du débutant, à une vision moins assurée des choses, une liberté grâce à laquelle je connus l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années qui suivirent, j'ai créé une société appelée Next et une autre appelée Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme exceptionnelle qui est devenue mon épouse. Pixar, qui allait bientôt produire le premier film d'animation en 3 dimensions, Toy Story, est aujourd'hui la première entreprise mondiale utilisant cette technique. Par un remarquable concours de circonstances, Apple a acheté Next. Je suis retourné chez Apple. Et la technologie que nous avions développée chez Next est aujourd'hui la clé de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons fondé une famille merveilleuse. Tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été virée d'Apple. La potion fut horriblement amère, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie vous flanque un bon coup sur la tête. Ne vous laissez pas abattre, je suis convaincue que c'est mon amour pour ce que je faisais qui m'a permis de continuer. Il faut savoir découvrir ce que l'on aime et qui l'on aime. Le travail occupe une grande partie de l'existence et la seule manière d'être pleinement satisfait est d'apprécier ce que l'on fait. Sinon, continuez à chercher et ne baissez pas les bras. C'est comme en amour. Vous saurez quand vous aurez trouvé. Et toute relation réussie s'améliore avec le temps. Alors, continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ma 3e histoire concerne la mort. À l'âge de 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. « Si vous vivez chaque jour comme s'il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. » Elle m'est restée en mémoire et depuis, pendant les 33 années écoulées, je me suis regardée dans la glace le matin en me disant « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j'aimerais faire ce que je vais faire tout à l'heure ?» Et si la réponse est non pendant plusieurs jours d'affilée, je sais que j'ai besoin de changement. Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre les décisions importantes. Parce que presque tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos vanités et nos fiertés, nos peurs de l'échec, s'efface devant la mort, ne laissant que l'essentiel. Se souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire que l'on a quelque chose à perdre. On est déjà nu, il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Il y a 1 an environ, on découvrait que j'avais un cancer. À 7 heures du matin, le scanner montrait que j'étais atteint d'une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était le pancréas. Les médecins m'annoncèrent que c'était un cancer probablement incurable et que j'en avais au maximum pour 6 mois. Mon docteur me conseilla de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui signifie « préparez-vous à mourir », ce qui signifie « dire à ses enfants en quelques mois tout ce que vous pensiez leur dire pendant les 10 prochaines années », ce qui signifie « essayez de faciliter les choses pour votre famille, en bref, faire vos adieux. » J'ai vécu avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard dans la soirée, on m'a fait une biopsie, introduit un endoscope dans le pancréas en passant par l'estomac et l'intestin. J'étais inconscient. Mais ma femme qui était présente m'a raconté qu'en examinant le prélèvement au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, car j'avais une forme très rare de cancer du pancréas guérissable par la chirurgie. On m'a opéré et je vais bien. Ce fut mon seul contact avec la mort et j'espère qu'il le restera pendant encore quelques dizaines d'années. Après cette expérience, je peux vous le dire, avec plus de certitude que lorsque la mort n'était pour moi qu'un concept purement intellectuel, personne ne désire mourir. Même ceux qui veulent aller au ciel n'ont pas envie de mourir pour y parvenir. Pourtant, la mort est un destin que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est bien ainsi, car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C'est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l'ancien pour faire place au neuf. En ce moment, vous représentez ce qui est neuf, mais un jour, vous deviendrez progressivement l'ancien et vous laisserez la place aux autres. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Dans ma jeunesse, il existait une extraordinaire publication, The Holler's Catalogue. Une des bibles de ma génération. Elle avait été fondée par un certain Stewart Brand, non loin d'ici, à Menlo Park, et il l'avait marquée de sa veine poétique. C'était à la fin des années 1960, avant les ordinateurs et l'édition électronique. Elle était réalisée entièrement avec des machines à écrire, des paires de ciseaux et des appareils Polaroid. C'était une sorte de Google en livre de poche. 35 ans avant la création de Google, un ouvrage idéaliste, débordant de recettes formidables et d'idées épatantes. Stewart et son équipe ont publié plusieurs fascicules de The Holler's Catalogue. Quand ils eurent épuisé la formule, ils sortirent un dernier numéro. C'était au milieu des années 1970 et j'avais votre âge. La quatrième de couverture montrait la photo d'une route de campagne prise au petit matin, le genre de route sur laquelle vous pouvez faire de l'autostop si vous avez l'esprit d'aventure. Dessous, on lisait « Soyez insatiable, soyez fou ». C'était leur message d'adieu. « Soyez insatiable, soyez fou ». C'est le vœu que j'ai toujours formé pour moi. Et aujourd'hui, au moment où vous recevez votre diplôme qui marque le début d'une nouvelle vie, c'est ce que je vous souhaite. Soyez insatiables, soyez fous. Merci à tous.
Prise de parole de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, prononcée en 2005 devant les étudiants de l'Université américaine de Stanford. Traduction, Anne Damour.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Je propose qu'aujourd'hui, dans la rubrique environnement, nous parlions de l'idée de faire sa propre graine. J'explique pourquoi j'ai envie de vous donner ce type d'informations. Parce qu'en fait, je me dis que dans l'idée de faire un potager, tant qu'à faire, quitte à faire un potager, autant que ce soit quelque chose qui nous coûte 0 euro. Alors bien sûr, quand on fait son potager aux environs du mois, enfin, avril-mai, on peut aller dans des jardineries et acheter des plants tout faits, ou aller même chez un producteur qui fait des plants tout faits, donc voilà, qu'on n'a plus qu'à planter en terre. Mais quand même, comme je vous le disais au début, tant qu'à faire, autant que ce potager nous coûte 0 euro. Alors ça demande plus de temps, forcément, mais ça se fait très très facilement. Donc, comment faire pour avoir un potager à 0 euro ? Eh bien, l'idée, c'est donc de faire sa propre graine en fonction des différents légumes que vous voulez. Et je propose de vous donner trois exemples sur trois types de légumes un peu différents. On peut commencer par tout ce qui est légumes racines, donc les radis roses, les radis noirs et aussi ce qui va être carotte. Concrètement, eh bien, pour obtenir de la graine pour l'année à suivre, parce que faire de la graine, ça va se situer un an avant, il faut s'y atteler en général à la fin de l'été, au début de l'automne. Donc vous avez vos carottes en terre ou des radis, mais il suffit tout simplement de ne pas récolter une ou deux carottes ou un ou deux radis. Tout simplement, on ne le récolte pas. Et si on ne le récolte pas, ce qui va se passer, c'est que, comme on dit, le légume monte en graines. Un radis qui monte en graines, ça fait une queue de radis très très haute qui fait facilement 1,50 m, donc faut accepter d'avoir un peu de jungle dans le potager à ce moment-là. Et tout simplement, on va attendre. Et si on attend, eh bien, ce légume qui monte en graines va faire des fleurs. Une fois que les fleurs seront fanées, les fleurs feront des graines. Tout simplement, parce que c'est le cycle de la nature. Donc il suffit en gros, juste pour faire sa graine de radis ou de carotte, d'être patient. Et après, une fois que la fleur est fanée, on attend encore quelques temps que la graine soit bien finie, j'ai envie de dire. Et quand, en gros, on prend juste la tige du légume en question, on le secoue un petit peu. Et si on voit que déjà il y a quelques graines qui tombent, c'est que c'est bon. Et vous pouvez récolter ces petites graines qui tombent dans un petit récipient. Et voilà, vous avez votre graine pour l'année d'après. Prenons un autre exemple qui sera exactement le même principe, même si on n'est pas sur du légume racine, des salades. Que ce soit des laitues, des batavia, des feuilles de chêne, ce que vous voulez en salade, c'est tout pareil. En fait, si on ne récolte pas une salade, elle monte. Donc ça va faire une salade très haute, qui a plusieurs étages. On peut toujours en manger les feuilles. Elles sont plus amères, mais ça reste de la salade qui est totalement mangeable. Et si vous la laissez monter en graines, et pareil, ça va faire une hampe florale, donc elle va monter, ça va faire une salade qui fait 1,50 m au bout d'un moment, avec une hampe florale qui fera des graines. Exactement le même principe que pour le radis ou la carotte. Et pareil, vous récoltez ça, et paf, vous avez vos salades pour l'année d'après, qu'il suffira de semer directement dans la terre ou dans des godets si vous voulez vous y mettre un petit peu plus tôt dans l'année. Un dernier exemple, parce que finalement, quand on fait un potager, même les gens qui font très peu de potager, qui ont peut-être des petits jardins ou qui veulent juste faire un tout petit peu de potager, en général, les gens veulent des tomates. Parce qu'on le sait tous, hein, je veux dire, entre des tomates qui sortent des rayons d'un supermarché ou même de chez certains maraîchers, on a quand même des tomates qui ont de moins en moins de goût. Hein, on sait que beaucoup de tomates aujourd'hui nous viennent d'Espagne, sont faites en hydroponie, donc ça veut dire seulement avec de l'eau et des substrats. Donc concrètement, c'est des plants de tomates qui ne voient jamais la terre. Et soyons clairs, hein, une tomate qui a poussé dans la terre aura toujours des fruits qui ont meilleur goût qu'une tomate qui a poussé en hydroponie. Donc, on veut de la tomate dans son jardin, voilà, on veut des bons fruits tout simplement. Et donc la technique pour récolter la graine de tomate, c'est différent de ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Et c'est très simple. Soit vous allez récolter une belle tomate, vous en récoltez une bien belle, idéalement une bien grosse, celle que vous considérez la plus belle. Il va falloir juste accepter de la sacrifier, hein, vous n'allez pas la manger, quoi que si d'ailleurs. Je vais vous donner deux techniques. La première, c'est de la sacrifier totalement, de ne pas la manger. Vous prenez cette tomate et vous la mettez dans un pot de terre, vous la recouvrez, laissez passer tout l'hiver et basta. Ou, si vous ne voulez pas la mettre dans un pot rempli de terre, bah vous la mettez en terre, vous l'enfouissez dans le fond de votre potager, alors pas à 2 mètres, hein, vous l'enfouissez à 20 cm, 10 cm, et vous pouvez être sûr que vous allez avoir naturellement, au moment du prochain printemps, des pieds de tomates qui vont sortir tout seuls de là, quoi, que vous pourrez récolter avec précaution pour pas casser la petite racine et replanter aux endroits que vous voulez. Parce que ce qui va se passer, c'est que bien sûr, vous allez avoir 20 petits pieds de tomates qui vont être tout serrés les uns sur les autres. Il vous suffit vraiment de le replacer ailleurs. C'est la première technique. Et finalement, l'autre technique pour récolter de la graine de tomate et vraiment avoir la graine, eh bien, c'est de prendre là encore la plus belle tomate de votre pied de tomate. Vous allez faire une salade de tomates et vraiment vous atteler à récolter les graines de cette tomate qui se situe vraiment dans la pulpe de la graine de tomate. Quand vous ouvrez une tomate, voilà, il y a la partie un peu plus rigide de la tomate et il y a la pulpe. Les graines vont être là-dedans. Elles sont très, très, très petites. D'ailleurs, hein, c'est des graines qui passent dans nos boyaux et qui ressortent telles quelles. Donc en fait, la graine de tomate, elle est vraiment très petite et dure à choper. Donc la technique, c'est de prendre ce petit amas de pulpe qu'il y a au milieu de votre tomate. Vous la mettez dans un petit pot de verre. Il vous faut un petit couvercle à ce pot de verre. Vous allez mettre de l'eau, donc hop, pulpe de tomate, de l'eau, dans le pot de verre, vous fermez le couvercle et vous secouez vigoureusement tout cet ensemble. Et ce qui va se passer en secouant, c'est que la pulpe va un peu se détacher. Voilà, vous faites ça. Et après, vous enlevez un petit peu l'eau qu'il y a dans ce petit pot et vous étalez cette pulpe de tomate dans lesquelles il y a les graines qui ont été un peu décoincées grâce au secouage, en fait. Et vous étalez ce contenu de pulpe et de graines sur un sopalin. Et vous attendez. À un moment donné, les graines vont apparaître naturellement. La graine va vraiment se détacher de la pulpe. Il faut peut-être que vous titillez un peu avec un petit couteau ou quoi. Mais voilà, et ça c'est top. Et là, vous aurez vraiment de la graine de tomate que vous pourrez placer où vous voulez dans votre jardin ou même utiliser 2 ans après, 2 à 3 ans pour une graine.
Les allumeurs de Réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de Réverbère.
Droit d'alerte et de retrait. Article L4131-1. le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Article L4131-2. Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L4132-2. Article L4131-3. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Article L4131-4. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous au chapitre 1 du livre 3 du livre 1 de la quatrième partie de la partie législative du Code du travail nommé « Droit d'alerte et de retrait ». Vous pourrez aussi consulter le chapitre 2 développant les conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait et le chapitre 3 au sujet du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-réverbère.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour pour la rubrique Environnement Anne-Laure Rousseau, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage. Amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.